Bonjour à toutes et à tous. Mais je reprends aujourd'hui sur cette question qui est très importante, c'est la crise du logement, en tout cas le problème du logement dans son ensemble. Alors effectivement, comme je vous disais précédemment, il s'agit de mise en garde, d'un débat important avec des gens qui pensent qu'une crise majeure est en train de se développer et d'autres qui pensent que tout ça est excessif et qu'en fait il y a des solutions et des solutions faciles. Alors les premiers font état manque de construction, du fait qu'il y a une raréfaction des terrains à construire qui induit une hausse du bâtiment et de ce fait, les opérations se raréfient, les prix augmentent et les classes moyennes ont du mal à se loger et donc on prévoit une crise importante. Bon, ça c'était pour le rappel du titre. Je proposais dans une dernière émission, je proposais donc une solution qui me paraissait accessible, rapide et qui touchait notamment les grandes villes comme Toulouse. Alors, comme nous sommes à Toulouse, il est évident que ce sujet a toute sa pertinence, mais il ne s'agit pas d'une particularité locale, mais d'un phénomène qui peut être appliqué aux grandes villes françaises et d'une manière plus générale aussi ailleurs. Mais enfin, ce n'est pas notre sujet. Donc, ce que je montrais, c'est que autour du centre dense et des quartiers denses de ce centre historique, qui à Toulouse, bon, on voit bien, c'est le centre qui est entre les boulevards, bon, c'est la même chose que Paris, par exemple, et on a aussi bon, les quartiers qui sont tout autour, que l'on appelle les faubourgs, enfin, que l'on appelle depuis très longtemps les faubourgs et qui ont eu aussi une densification, on peut dire, depuis l'après-guerre. Donc on se trouve soit à aller très loin pour les opérations ou alors aussi grignoter les terres périphériques autour de la ville. Alors il ne s'agit pas de trouver une solution miracle parce qu'en fait plusieurs choix sont possibles. Mais il y a en tout cas une possibilité qui est une possibilité de densification et pas de densification sur le bâti du logement, ce qui est préconisé par les règlements et préconisé, on peut dire, par l'idéologie dominante. Alors il faut faire la part des choses. L'idéologie dominante, entre guillemets, qui va contre la volonté des gens, les désirs des gens. Les désirs des gens, ils sont clairement exprimés en France. Je crois que c'est plus de 80% de gens qui désirent une maison individuelle. Et évidemment, l'idéologie dominante dit, à travers les canaux officiels, elle dit le logement individuel est la cause de tous les maux, à la fois sur le problème de la pollution, sur le problème de l'écologie et sur la vie des gens. Et évidemment des positions qui ne sont pas très nuancées. Donc les solutions qui sont proposées, c'est de densifier l'existant. Alors on a des règlements qui s'adaptent, qui permettent de, par exemple, sur la même parcelle de maison, d'en mettre une deuxième, et aussi dans les quartiers de maisons individuelles, avoir des règlements d'urbanisme qui font détruire le bâti existant pour construire en hauteur. Donc remplacer des maisons individuelles par des immeubles. On voit ça très bien, par exemple, prenant le quartier de la Côte Pavée, on voit bien des opérations qui détruisent alors, ces maisons que l'on appelle les Toulousaines, qui sont un habitat typique du 19e siècle, qui étaient des maisons pour des familles assez modestes, plutôt bien construites, avec du caractère, et qui sont démolies pour mettre souvent des immeubles de R plus 3, bon, de 3 niveaux ou 4 niveaux. Et avec, évidemment, il s'agit souvent de détruire plusieurs maisons. Et au final, la densité n'est pas extraordinaire. On n'a pas un gain, mais on a un changement de physionomie de ces quartiers. Et surtout, à mon sens, on détruit un bâti existant, souvent qui a été rénové. Il ne s'agit pas de maisons qui sont abandonnées. On a des quartiers qui sont devenus des quartiers bourgeois, qui étaient des quartiers, on peut dire, populaires avant, et qui sont devenus des quartiers bourgeois. Ce faisant, donc, par le phénomène de spéculation, on a des phénomènes de spéculation, par exemple, où on a des bâtiments. Il y avait, par exemple, près de la place de l'Ormeau, un restaurant qui venait d'être refait, assez bon goût, et un an après, il y a eu une proposition de promoteur pour acheter le terrain. Donc, le restaurateur a fait démolir son restaurant qui était bien placé et de belle qualité, on peut dire, d'agrément, avec une terrasse en bois. Enfin, c'était assez joli. Et on a mis à la place un petit immeuble sans âme. Alors, tout ça a un coût économique, puisqu'on détruit des choses qui viennent d'être faites et on les remplace. Donc, si on parle de coût économique pour la population, on voit que tout ça n'est pas très bien. Alors, je reviens à ma proposition, qui est paradoxalement minoritaire, puisqu'on ne parle que de la densification dans les quartiers, déjà les quartiers d'habitation. Et on ne pense jamais de la densification dans les quartiers qui sont nouveaux, qui sont les quartiers périphériques que l'on appelle zone commerciale, industrielle et artisanale, et qui constitue une très grande partie du développement urbain d'aujourd'hui. Donc, quand on parle de l'étalement urbain, on ne parle que de l'étalement urbain pavillonnaire. Alors là, c'est le grand mot, donc il faut intervenir sur la vie des gens. Mais alors là, sur ce qui constitue l'essentiel, justement, de l'urbanisation, une urbanisation nécessaire, parce qu'il ne s'agit pas de dire il faut supprimer cela, parce que c'est un peu souvent ce que l'on entend dire. Il fallait supprimer les grandes surfaces, les commerces extérieurs pour revenir dans le centre-ville. Bon, mais tout ça, évidemment, est totalement irréaliste, et il s'agit évidemment des lieux où on travaille. Il y a des zones de bureaux, il y a des activités d'artisanat et grand nombre aussi d'éléments de stockage, mais aussi des bâtiments à usage public, des salles de gymnastique, des restaurants, enfin, bon, tout un ensemble d'activités qui constituent d'ailleurs l'essentiel du tissu économique, avec aussi les zones de stockage et d'entrepôt, à la fois pour les artisans, à la fois pour les industriels, et aussi à la fois pour les commerçants, et à la fois pour la population qui n'a plus des caves et des greniers pour stocker comme avant les denrées et la nourriture. Donc, on a une réalité de la vie dont quasiment on ne parle pas, si ce n'est pour dénoncer la France moche. Mais ça s'arrête là. Il y a des quartiers qui sont, par exemple, la route de Paris à Toulouse, et comme dans toutes les villes, des zones industrielles, puisque c'était le mot, industrielles et artisanales, qui sont, on peut dire, en déshérescence, et certaines parties abandonnées, en tout cas, on peut dire, de mauvaise qualité. Par contre, il y en a d'autres qui sont de meilleure qualité. Et par exemple, j'avais cité la zone de Bassocambeau, mais là aussi la zone de Montaudran, autour de la Cité de l'Espace, qui est de belle qualité. Ça veut dire que les bâtiments, excusez-moi, ça veut dire que les bâtiments sont plus récents, de bonne tenue architecturale, et surtout il y a un grand nombre de plantations qui ont été prévues au moment de la construction il y a une vingtaine d'années, ou 30 ans, ou moins, mais en tout cas, qui se sont développées, qui font que ces endroits sont verdoyants, les voies sont larges et bien pensées, il y a tout un aménagement, on peut dire urbain, d'éclairage de qualité, mais ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a une très faible densité, et on peut dire aussi que c'est monoactivité. Pour résumer, donc c'est bureau-entrepôt et petite, on peut dire, activité d'usine d'assemblage ou d'artisanat. Alors, la question serait de densifier cela. Alors, lors des discussions que j'ai eues sur ce sujet, on m'a répondu que c'est quand même très compliqué parce que il fallait changer les lois et que changer les lois c'était très long. Et là, on tombe sur un phénomène français qui est toujours cette surenchère de réglementation où on ne se pose pas les questions de comment faire avec la réglementation existante, ce qui est la plupart du temps possible. On dit il faut tout changer. Alors c'est évidemment on peut l'étendre à la sphère politique, et il faut une sixième république, il faut mettre à bas les institutions, il faut changer la constitution, et ça c'est quelque chose que l'on entend à droite comme à gauche. Macron veut faire des changements constitutionnels comme on en a eu précédemment avec Chirac. On a modifié on est passé du septennat au quinquennat. En fait, on a une sorte de frénésie de modification législative qui fait qu'on empile des lois, on ne sait plus les lois que l'on a modifiées, il y a des lois qui sont contradictoires. Enfin, ça, c'est un phénomène français. Alors, on peut, pour parler de l'actualité, comparer avec notre pays voisin britannique et les traditions du couronnement royal qui datent de près de 1000 ans, et on a une gestuelle, des rites qui sont immuables. Évidemment, nous, depuis ce temps, on a changé, ne serait-ce que sur les deux derniers siècles, un grand nombre de fois de constitutions, de systèmes de gouvernement, et on en redemande encore plus. Il faut, le LFI demande une sixième république, évidemment, et on parle de renverser la table. En fait, il ne s'agit pas de renverser la table, il s'agit en fait de détruire la maison. Renverser une table, on la redresse vite. Mais ce dont on parle, c'est de renverser la maison, comme si on disait la chasse d'eau fuit, eh ben, il n'y a qu'une seule solution, c'est de renverser la maison. Alors, je vais vous parler dans la deuxième partie des solutions juridiques. Je ne vais pas rentrer dans un grand débat juridique, mais je vais faire appel à des principes simples que tout le monde connaît par rapport aux réglementations pour montrer qu'on peut tout à fait changer les choses sans faire la révolution.
Tes cheveux ont poussé, je vois que ta tête a changé. Je t'aime plus qu'avant, je crois. T'as le sourire cassé. Je me dirais à moi-même que si je me reconnais pas, que si je suis plus la même, c'est peut-être grâce à moi. Et je vole encore mes joies. J'en veux encore, même si je comprends pas pourquoi je change. Et quelquefois, j'ai tellement peur que la nuit ne vienne pas. Car quand je dors, je rêve de ça, de tout comprendre et de savoir pourquoi. Sur des d'avant, t'as grandi un peu jamais de bon moment. T'as marché, t'as couru, c'est bien, mais allonge-toi maintenant. Raconte, analyse tes histoires, ça évite les pansements. Et je me dirais à moi-même, tu vois, fais-toi confiance, que tant qu'on a ce qu'on aime, on a déjà de la chance. Et je vole encore, encore mes joies, j'en veux encore, même si je comprends pas.
Je vous disais, changer les choses sans faire à la révolution. Donc, on a, sur des terrains urbanisés récemment, des réglementations qui s'appliquent, qui sont des réglementations d'urbanisme et qui définissent la hauteur des immeubles, la densité du bâti par rapport au terrain. Et on a les possibilités réglementaires de ce que l'on appelle les ZAC, les zones d'aménagement concerté, qui peuvent être soit publiques, donc la mairie par exemple, la municipalité qui prend l'initiative, ou aussi privée, mais il peut y avoir une délégation de services publics qui soit donnée par exemple à des organismes, ou par exemple des organismes HLM qui peuvent tout à fait, c'est dans leurs compétences, prendre en main cela. Bon, de quoi s'agit-il? Il s'agit de définir un périmètre, et de changer les règles d'urbanisme en concertation. Alors, il est évident que ce n'est pas fait d'une manière violente, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'exproprier les gens et les mettre dehors, et de prendre les terrains en démolissant. Alors ça, c'est la vision que l'on a souvent de l'urbanisme, mais les choses doivent être beaucoup plus subtiles. Hélas, le problème de la densification est souvent celui-là, comme je vous disais tout à l'heure, on démolit et on reconstruit. Alors, on est sur un mythe de la ville se construit sur la ville, c'est quelque chose qui est des propos assez abusifs, parce que bien souvent, ce qu'on fait, on densifie, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Et l'idée que l'on a, c'est qu'il s'agit d'avoir des reconstructions, et on dit qu'aujourd'hui, que la tradition étant que l'on démolit le bâti pour reconstruire dessus, alors il est évident que cela a un coût économique, je viens d'en parler, ça aussi un coût social, parce que il faut déménager les gens, souvent c'est des opérations assez brutales, et puis il y a un coût aussi culturel qui fait que le patrimoine, même s'il ne s'agit pas d'un patrimoine extraordinaire, ce patrimoine est détruit, ou du moins les images de la ville que l'on a vues dans son enfance, que l'on connaît, est détruit au profit souvent des choses qui ne sont pas meilleures que celles que l'on avait avant. Alors, la solution de densification a été souvent la solution qui a été prise, et on a aussi dans certains endroits dédensifiés, il y a des endroits où on a densifié, dont les choses ne sont beaucoup plus complexes que l'on pense. Mais dans notre cas, il s'agirait donc dans des quartiers qui sont très peu denses, qui ont été par contre largement pourvus en voie de circulation, en équipement public, donc c'est-à-dire que tout ce qui est très cher de cette armature étant déjà constitué, on pourrait, par exemple, ne serait-ce que en utilisant les parkings de surface, qui sont évidemment la solution la plus économique pour se garer, remplacer ces parkings de surface. Sans parler de transport en commun. Alors là, évidemment, le transport en commun est une solution, mais peut-être des solutions plus complexes, mais on aurait des solutions beaucoup plus simples, c'est-à-dire de faire des parkings silos sans faire des nouveaux sous-sols compliqués à réaliser. On pourrait faire des parkings mutualisés, c'est-à-dire que plusieurs sociétés propriétaires de terrain ayant chacun des parkings qui ont été la plupart du temps largement pourvus, on pourrait mutualiser, donc avoir des parkings collectifs qui pourraient rythmer le paysage architecturalement. Ça peut être aussi une chose intéressante et pas négative. Donc, on libère du terrain très facilement. Alors, il y a aussi des espaces verts publics qui sont de qualité, qu'il faut garder, mais il y a aussi des espaces verts privés qui, bien souvent, posent des problèmes d'entretien pour les propriétaires, et souvent, ils sont assez redondants, et on pourrait s'en faire des drames, mais il faut faire aussi le choix, on peut dire, densifier. Et sans tomber sous le coup de cet excès de minéralisation, puisqu'il s'agit de secteurs qui sont en très grande partie très peu minéralisés et très végétalisés. Donc on pourrait trouver un bon équilibre de construction et et en montant et en ayant une plus grande densité à la fois d'occupation de sol et aussi en hauteur. Alors, la solution technique, la solution législative n'est pas très compliquée. Je vous disais, la procédure de ZAC est tout à fait adaptée. Et on donne des nouveaux droits à construire aux propriétaires. C'est-à-dire que c'est un bénéfice pour tout le monde. Il n'y a donc pas de spoliation, mais il y a des droits à construire. Alors, il pourrait y en avoir une partie qui serait de ces droits qui seraient attribués, par exemple, pour des logements sociaux. Et les logements sociaux ont les mêmes difficultés pour trouver des terrains que les promoteurs privés. Donc cette pénurie de terrain qui est faite pour des motifs, comme je vous disais, idéologiques, bah, évidemment, elle touche évidemment toutes les tranches de la société et notamment les bâtisseurs sociaux. Donc on pourrait avoir très rapidement des possibilités de logement. Alors évidemment, il ne s'agit pas que de faire du logement. Et il pourrait y avoir aussi des densifications d'équipements publics. À la fois des écoles, des services ou cliniques et autres. Enfin, toutes les possibilités que l'on peut trouver aujourd'hui, mais aussi une densification de commerciaux, de bâtiments commerciaux, puisque on va augmenter la population. Donc, on pourrait avoir une augmentation de la population, ce qui veut dire que Ces grandes avenues comme l'avenue Kennedy qui sont désertes avec très peu de circulation dans la journée, surdimensionnées, on pourrait avoir une activité, à la fois une activité de bureaux, de gens qui travaillent, qui auront des commerces, des restaurants à proximité, évidemment, et qui seront mixé avec aussi des nouvelles opérations de population. Donc, sur un plan, on peut dire, idéologique, puisque il s'agit aujourd'hui d'être vertueux, je ne vois pas en quoi ce type de population pourrait choquer, si ce n'est que on n'est pas justement à proposer une densification des logements qui se fait évidemment au détriment des gens existants. Alors, j'en ai pas parlé précédemment, mais il est évident que quand on a un quartier de maisons individuelles, je prenais le quartier de la Côte Pavée par exemple, et que des gens qui étaient tranquilles avec dans leur petite Toulousaine ou leur villa 1930 ou 1950 qui ont été construites au cours du XXe siècle, ben, voient un immeuble, même ne serait-ce qu'un immeuble de 3 ou 4 niveaux, ben, il leur coupe la vue, il leur fait de l'ombre, et ce qui me paraît quand même quelque chose qui n'est quand même pas très bien. Donc, dans le cas de ces zones d'activité, il est évident que là, comme on n'a pas d'habitation du tout, et qu'il s'agit de zones qui sont mono-activités, d'introduire justement de la vie avec de la densification. Alors, d'une part, comme je vous avais déjà dit, autant les gens aujourd'hui demandent de ne pas être trop près de leurs voisins, par contre, dans tout ce qui est activité journalière, les lieux où on travaille ou les lieux où on se rencontre, je sais pas, les salles de gym, les bistrots, les restaurants, les centres culturels, etc., bah, au contraire, la densité est bienvenue. Donc, j'ai bien l'impression qu'aujourd'hui, on fait un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on disperse les activités et on veut densifier le logement. Donc, la solution, évidemment, serait profitable à tout le monde, aux gens qui ont, aux sociétés propriétaires de ces terrains, aux sociétés HLM qui pourraient disposer de quotas de terrains très bon marché. Les équipements sont déjà faits, donc en fait, on pourrait penser à des nouveaux quartiers. Alors, sur un plan technique, ces opérations de ZAC sont bien rodées. On n'a pas d'expropriation qui sont toujours des problèmes qui sont à la fois sur un plan financier coûteux et sur un plan humain des fois complexes à résoudre d'exproprier les gens. Tandis que là, on ne ferait que qu'améliorer. Alors, si quelqu'un ne veut pas le faire, il pourrait aussi s'y opposer et laisser faire à côté. En fait, je pense qu'il y a une sur il s'agit plus que des hectares, mais des kilomètres carrés à modifier. On pourrait avoir des quartiers denses, des quartiers agrémentés de tous les services et tout cela pour un faible coût pour la collectivité. Et un avantage pour tout le monde. Voilà, c'était donc mon propos aujourd'hui sur ce sujet. Je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.